CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du MAG, le magazine d'actualité locale. Vous propulse ce week-end du côté de Nègrepelisse sur l'esplanade du château pour la 4e fête du feu et de la terre. Vous aurez une centaine d'exposants, couteliers, potiers, céramistes, un marché d'artisans pour y retrouver de tout et voir de nombreuses démonstrations de damas, tatara ou de forges. On vous dira tout juste après la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques puisque oui, on est mardi. C'est la chronique de Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause neige, genèse, hirondelle et résistance. Avec, pour commencer, l'encyclopédie des débuts de la Terre d'Isabelle Greenberg. Une BD qui n'en est pas vraiment une, comme une histoire avec un goût de légende et des contes qui nous emmène et nous promène entre références mythologiques et racontars épiques. Une BD dans laquelle, depuis une île lointaine, nous suivons le voyage mouvementé d'un jeune garçon qui a perdu une partie de son âme et tente de la retrouver. Et qui, pour déjouer les coups du sort et se sortir des mauvaises passes, se sert de l'art absolu, celui de compter. On découvrira ainsi comment une vieille femme terrassa un géant en lui faisant manger des saucisses grillées, comment la femme du pôle sud et l'homme du pôle nord tombèrent éperdument amoureux sans jamais parvenir à se toucher, comment trois sœurs demandèrent à un chaman sans scrupule de leur partager un bébé. Souverain sanguinaire, monstre marin, guérisseur fou, arche de Noé, la talenteuse Isabelle Greenberg convoque les plus grands mythes et nous fait revivre intensément les débuts de la Terre, quand les glaces recouvraient une bonne partie du globe, quand les hommes et les dieux se côtoyaient, quand la magie était partout. Un renouveau mythologique dans le Grand Nord qui adapte et revisite les grandes épopées de fond en comble sans en dénaturer l'esprit. Une histoire d'histoire, comme une pensée qui en déclenche une autre, qui en fait naître une deuxième, puis en rappelle une suivante. Une histoire au graphisme séduisant par sa simplicité naïve, proche du minimalisme ou du trait enfantin, et de l'adéquation entre le dessin et le propos. Une adéquation subtile avec cette touche particulière, comme une arme, celle d'un raconteur caché dans chaque trait simple, presque primitif. Noir et blanc la plupart du temps, avec parfois un soupçon de couleur, un peu de rouge, de jaune, de bleu sans fioriture. Un agréable ouvrage plein de rêves, de poésie, de mythologie retravaillée, d'amour, d'humour et d'humanité. On sait désormais qu'il y a en chaque homme un besoin indéniable d'histoire. Pratique millénaire et intrinsèque à notre nature humaine, l'être humain passe la majorité de son temps éveillé à inventer des histoires sur lui-même et le monde qui l'entoure. Plongé en enfance, quand on nous racontait une histoire le soir, ce sont des mythes, des récits, des légendes dans lesquels on ne croit pas mais qui existent le temps d'un instant si on se prête au jeu. Une enfance dans laquelle on retombe avec délectation, c'est puissant et pourtant simple. Une histoire de création du monde et des hommes, de lutte contre les géants et de mers infranchissables qu'on parcourt. Une BD à lire avant de dormir pour s'envoler dans un monde onirique qui rassure et qui envoûte. Et on enchaîne de suite avec un film d'animation français. Les hirondelles de Kaboul de Zabou Bretman et Ella Gobé-Mévelec, adapté du roman de Yasmina Kadra. Été 98, Kaboul en ruine est occupé par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s'aiment profondément en dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Mais un geste insensé de Mohsen va faire basculer leur vie. Un film sur la question du devoir de mémoire ou de la nécessité d'informer, y compris sur les zones les plus sombres de l'humanité, c'est toujours délicat. Et allier la beauté des aquarelles à l'horreur d'une société sous le joug des talibans n'est pas une évidence. Si la dimension historique, voire documentaire, est évidente, la première motivation du récit, un triste coup de projecteur sur l'obscurantisme contemporain où l'interdit fait loi, qui distribue les espaces du film avec intelligence. La rue silencieuse, grillagée, jusque sur le village, visage voilé des femmes s'oppose aux bâtisses dans lesquelles quelques bribes d'intimité adviennent, mais étouffées progressivement par une atmosphère suffocante. La conception du film fut particulière, d'abord interprétée en premier lieu par des acteurs au beau milieu d'un décor tout à fait réaliste dans les tons pastels, puis redessinée par la graphiste Ella Gobé-Mévelec, image par image, transformant ainsi les personnages, suivant leur physique et leurs expressions tout en épurant les traits, le jeu et le dialogue, une expérience concluante, tant le climat reste intrigant, violent et mouvant. Avec ses couleurs pastels qui donnent au film un cachet indéniable, entre brutalité et douceur, s'opposant magnifiquement. Des hirondelles qui veulent voler vers la liberté dans le ciel afghan. Des hirondelles qui partent à tire-d'aile pour célébrer, entre la mélancolie et les décombres, l'éclosion d'une fleur. Aussi obstinée que fragile, l'humanité. Sur ce, je vous laisse. L'encyclopédie des débuts de la Terre d'Isabelle Greenberg et les hirondelles de Kaboul de Bretman et Gobé-Mévelec sont à retrouver dans votre réseau des médiathèques préférées. Bonne lecture et à bientôt.
Et Toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont bien sûr à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr.
FM Kélus, le mag.
De retour dans ce mag pour vous proposer la quatrième fête du feu et de la terre du côté de Nègrepelisse sur l'esplanade du château avec des couteliers, des potiers, céramistes, marchés d'artisans. Il y aura un petit peu de tout, des démonstrations de damas, tatara ou de forge. Alors on va tout vous expliquer avec Thierry Reynal. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes coutelier vous?
Oui, je suis coutelier à Négropolis, oui.
Et c'est vous qui êtes à l'initiative de cette fête ?
Enfin, plus ou moins, c'est une chose qu'on a montée à la base avec la mairie de Négropolis. Et puis, bon, c'était parti pour être fait une année. Et puis, comme ça a fonctionné, on nous a demandé de continuer. Donc, on est encore là, quoi.
Et puis, vous doublez à chaque fête ?
Ben, chaque année, oui. Finalement, on fait quasiment le double. Ouais. Donc, cette année, c'est pareil. Là, on va se retrouver. L'an dernier, on devait être entre 40 et 50 exposants. Et cette année, on va tourner entre 110 et 120, quoi.
On va faire un petit peu dans l'ordre au niveau des exposants. Donc il y a le marché d'artisans où là bon bah il y a bijouterie.
Il y a un petit peu tout le monde. Ça part du tourneur sur bois, bijouterie. Il y a quelques potiers qui ont voulu rester à l'extérieur. Il y a des gens qui font du miel, qui font beaucoup de choses quoi. Et voilà, de l'artisanat. Mais c'est des gens qui sont artisans. On tient à garder des gens qui sont déclarés en tant que quoi.
Et puis voilà. De l'autre côté il y a votre fer de lance, hein, le métal. Coutelier, là vous allez être une sacrée tripotée.
Ben, là sur le château, on sera 60 couteliers, 64 même exactement. Il y a une quinzaine de céramistes à l'intérieur du château, quelques bijoutiers, et puis après toutes les démonstrations. Quoi.
Alors les démonstrations, oui, j'ai dit des mots que je ne connais pas.
Ben déjà, il y a le samedi, il y a le Cadouze qui vient avec. Ils font des démonstrations de tatara, c'est-à-dire tout ce qui est artisanat japonais au niveau du sabre. Donc déjà le samedi ça va être la fabrication du métal, là ils vont brûler 350 ou 400 kilos de minerai. L'année dernière on avait fait une loupe avec ça qui faisait 250 kilos de métal. Et le dimanche ils vont forger un sabre, le tremper en fin de soirée. Après il y a une démonstration de damas aussi. Il y a une démonstration sur le damas, il y a quelqu'un qui vient aussi là, sur le côté de la forge médiévale, il y a quelqu'un qui vient aussi faire des girouettes. Il y a des gens qui vont venir aussi expliquer tout ce qui est lame longue, quoi, au niveau épée. Ils fabriquent, ils sont de Carcassonne, quoi. Ils fabriquent tout ce qui est, la grande épée. Donc, ils vont venir un côté pédagogique et certainement faire de la démonstration d'escrime médiévale. Donc, un petit peu d'animation, quoi, sur le week-end, quoi. Entre samedi et dimanche, quoi.
Rien que ce que vous avez dit là, donc les sabres, donc il faut les plonger là dans l'huile, dans l'eau.
Le côté rigolo de l'histoire là, avec Dominique, quoi, c'est-à-dire que la trempe va se faire dans un aquarium. C'est-à-dire que les sabres sont forgés, un sabre est forgé droit, que ce soit les sabres japonais ou même ici en Europe, les sabres de cavalerie et compagnie. La forge est droite, hein, la pièce prend la courbure au moment de la trempe. Donc, en même temps, le plongeant dans l'aquarium, quand on s'est vitré, on voit la gestion de la courbure au niveau de la pièce. Quoi. Donc, voilà, il y a un côté sympathique vis-à-vis de tout ça. Quoi.
Et le damas, c'est comme quand on fait de la pâte à modeler, qu'on met des couches et des recouches et des recouches.
Oui, c'est une grosse pâte feuilletée, oui, voilà, ouais, c'est ça. Quoi. On plie, on replie, on replie. Quoi.
Plein de démonstrations, donc, et puis des exposants qui vous viennent de partout. Hein.
Ah là, au niveau couteau, en plus cette année, on a la chance d'accueillir des copains là, qui sont, on a reçu une délégation des couteliers, du syndicat des couteliers corses. C'est pareil, ils ont monté ce syndicat parce que chez eux, ils se faisaient un peu tout n'importe quoi avec un gros cahier des charges au niveau de la fabrication de leurs couteaux. C'est-à-dire que tout doit être forgé chez eux avec au maximum de matières qui viennent de Corse. Et revendiquer d'un travail effectué sur place, quoi. Contrairement à beaucoup de lames qui viennent de Pétaouchnok, comme on dirait chez nous, quoi. Et qui sont vendues en tant que coutellerie corse. Alors que là, voilà, quoi. Donc eux, ils arrivent à 4. Après, il y a des gens qui viennent de Bretagne, qui viennent un petit peu partout de la France. Il y a 2 ou 3 personnes qui arrivent d'Espagne. Donc voilà, quoi. On commence à dépasser les frontières, quoi.
Il y a autant de couteliers que de spécialités différentes ?
Ben, un couteau reste un couteau sur le principe, quoi. Mais le problème c'est que chacun a sa patte, quoi. Donc on a beau faire un couteau, chacun va mettre sa main. C'est comme la peinture ou d'autres. Alors c'est vrai que nous on n'aime pas trop se laisser appeler couteliers d'art, comme on veut nous cataloguer un petit peu. On reste quand même des artisans à la base, quoi. On fait un couteau utile, quoi. Mais après chacun a sa patte, les matières, il y a moyen de faire des choses complètement différentes sur les damas, les faire parler de manière différente aussi. C'est un panel qui est quand même relativement large, quoi.
Et puis lors de cette fête du feu et de la terre donc de Négropolis, on va pouvoir parler avec vous justement, les artisans, et pouvoir s'approprier ces couteaux, on va pouvoir les tester, les tripoter, non, on a le droit quand même.
Alors on va les toucher, oui, voilà, bah, oui. Oui, si, enfin, après, ouais, sur le principe, enfin, y a pas, normalement il n'y a pas de souci, quoi, oui, on peut toucher le couteau, oui. De toute façon le couteau, enfin, quelque part, quoi, c'est un outil voilà, qu'il faut s'approprier de toute manière, quoi. Donc en principe il n'y a pas de problème, on a le droit de toucher le couteau, oui.
Et puis pour le reste, bah tout est faisable. Ça va sentir le feu. Ça va marteler, ça va faire beaucoup de bruit
en
là.
En moyenne, on brûle 3 palettes de charbon, quoi. Donc on fait un petit peu de feu, oui, effectivement.
Vous en forgez sur place, ça met combien de temps pour forger un couteau?
Alors la forge, je parle même, si on fait avec du damas, ça peut prendre énormément de temps, ouais. Parce que souvent les pliages qu'on va y mettre pour faire une lame, quoi, ça peut prendre, ouais, ça peut prendre même des jours, quoi. Mais après une forge même sur une grosse lame avec un tantinet d'extérité, quoi, ça va prendre, allez à la louche, ça va prendre 2-3 heures maximum, quoi. Mais après souvent c'est pareil, la difficulté de la pièce. Mais le gros travail après c'est sur le côté traitement thermique, hein, et puis sur le montage après derrière, quoi.
Le montage.
Il faut mettre un manche, hein, sur un couteau droit il va falloir mettre un manche, faire une garde, il y a tout un
aiguisé.
Après il y a une ergonomie à respecter aussi dessus. Les couteaux pliants, il faut faire un mécanisme, donc il y a tout le système de ressort, suivant les types de ressort, que ça soit un crampe forcé, un crampe plat. Un couteau à pompe, il y a quand même pas mal de mécanique, enfin d'ingénierie à faire dessus, quoi. Donc après le gros travail, quoi, surtout sur le montage après.
Et alors le feu, on comprend, hein, bah vous êtes coutelier, la terre, hein, pourquoi la terre, hein, faites du feu et de la terre.
Le feu et la terre, bon, déjà on a les potiers, les céramistes qui sont avec nous, donc c'est les gens qui travaillent la terre. Nous on travaille aussi avec la terre parce qu'on fait, voilà, quoi, les fours. Comme fait Dominique là, au niveau des tatarins, ou même les petits fours celtes, comme on travaille nous, quoi. Ils sont montés en terre crue.
Je vous coupe là, mais il faudra revenir dessus. Tatara, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais j'ai toujours pas compris ce que c'était.
Le tatara, c'est un gros four qui est monté en briques crues, avec des tuyères, quoi, qui amènent de l'air à l'intérieur. Et après, donc, on met du charbon de bois à l'intérieur, et après, une fois que le four est très chaud, On fait un mélange charbon minerai, c'est-à-dire enfin, s'il y a un kilo de charbon, on met un kilo de minerai, enfin, on n'est jamais dans cette eau-là, mais enfin, on met à charge égale le charbon et minerai, et tout ça jusqu'à ce que le morceau de métal monte au niveau des gueules des buses qui amènent de l'air, quoi. Après, une fois que ça arrive aux buses, de toute façon, on ne peut pas aller plus haut. Et donc, voilà, quoi. Donc, on fabrique le métal comme ça, quoi. Le minerai se fond et on fabrique le métal.
Donc je viens vous couper en plein milieu de vos explications autour de la terre. Alors oui, effectivement, là on comprend.
Et la terre, nous on est dedans. De toute façon, pour faire les fours, dans les forges, souvent il y a des réfractaires à l'intérieur, c'est pareil, quoi. Donc la terre, on est tout le temps un petit peu dedans, quoi. On se sert aussi de l'argile pour faire certaines trempes sélectives sur les lames. C'est-à-dire qu'on fait une gangue d'argile sur le dos de lame pour protéger le dos. C'est-à-dire que ces argiles réfractaires qui servent, enfin, un, à protéger de la chaleur quand on met dans le feu, et après quand on trempe la lame dans le liquide, que ce soit huile ou eau, l'argile fait l'effet inverse, c'est-à-dire que le tranchant va se refroidir beaucoup plus vite, donc prendre davantage de dureté. Par contre, l'argile va protéger du froid aussi après, derrière, et donc la trempe va prendre moins profondément dans le dos de la lame et garder de la souplesse. Donc ça fait une lame avec densité de dureté, quoi.
Et alors ça sert à quoi?
Ben c'est à dire que on a tendance souvent à l'heure actuelle à employer des aciers relativement durs. Et le problème c'est que si on trempe la lame complètement, souvent, quoi, sur des grosses lames ou des lames qui sont faites pour travailler un petit peu en porte-à-faux et compagnie, on risque d'aller à la casse. Donc en trempant un petit peu moins le dos, on gagne beaucoup de souplesse, et donc enfin voilà, on se sort de ce côté de casse, quoi.
Et quand vous parlez, donc vous cramez le charbon et les minerais, donc bah, c'est du fer,
c'est bien de fer. En principe c'est de l'hématite. Alors là, bon, Dominique lui la ramène sur le Larzac et sur le côté du Nord-Aveyron. Nous ici on va aller chercher sur Mordol-la-Bessonnier, quoi, pas tout à fait sud Aveyron. De Tarn, je veux dire, au-dessus de Ralmoul. Et voilà, donc dans les anciennes mines de fer, on va récupérer les minerais. Après, il faut le faire griller, le monter à 800 degrés pour le rendre rentable. Après, on le concasse et après, on le met dans les fours.
C'est-à-dire que tout disparaît, sauf donc vraiment l'essence, le métal en lui-même, qui va finir par fondre
Mais,
et devenir
On fait les cailloux, entre guillemets, bah ouais, pour fabriquer le métal. Quoi. On sort l'oxyde de fer qui est à l'intérieur du minerai. Quoi.
Vous avez dit 300 kilos?
Et là, on va tourner entre 350 et 400 kilos. L'année dernière, on a fait une loupe. Enfin, voilà, le morceau qui sort s'appelle une loupe. On a fait une loupe de 250 kilos de métal l'année dernière.
250 kilos de métal en ayant cramé combien de
450 kilos de minerai.
Ah, quand même.
Là, mais là, sur le pays, on a des minerais quand même qui sont relativement riches. Si on traite les fours comme il faut, on arrive quasiment à faire 50-50, quoi.
Plein de démonstrations.
Voilà, un peu de feu.
Et plein de trucs à apprendre dans un domaine réservé aux initiés.
Et là, les gens qui sont là sont aussi sur le côté pédagogique pour expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une équipe qui brûle le métal. Le minerai. Mais enfin, après, eux, ils ont des anciens avec eux là, qui sont là pour expliquer ce qui se passe au niveau. Parce que bon, enfin, c'est quand même tantiné d'alchimie, cette histoire. Et donc, ils sont là pour expliquer tout le processus, les changements le changement de la matière. Enfin, voilà, quoi. Tout sera expliqué, de toute façon. Quoi.
Et puis, on peut parler avec chacun de vous, hein, chacun de couteliers, d'artisans, de potiers, de céramistes, hein, vous avez chacun votre patte, chacun votre savoir-faire, et peut-être chacun votre manière d'expliquer les choses.
Oui, mais on est tous là pour expliquer notre art, entre guillemets, notre métier. Quoi. Oui. Ça, c'est personne, enfin, voilà, quoi, une personne n'est avare de discussion à ce niveau-là. Quoi. De toute façon, on a plein de choses à raconter, de toute manière. Quoi, donc, voilà, quoi.
Faudra venir ce samedi et ce dimanche, l'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite, oui.
Et tout se passe donc sur l'esplanade du château et à l'intérieur.
Enfin voilà, soit sur l'esplanade dehors sous les platanes, ou sinon après à l'intérieur de la cour, quoi.
Pour une centaine d'exposants, donc couteliers, potiers, céramistes, plus le marché des artisans.
D'artisans cadeaux, oui.
Qui sont eux très divers, plein de démonstrations tout au long de ces deux jours. De quoi se restaurer sur place?
Oui, il y a de quoi manger sur place, oui, voilà. Il y a deux stands de restauration. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vient avec des churros pour les enfants, avec les glaces et compagnie. Puis voilà, il y a la buvette, et ça reste un endroit convivial de toute façon, quoi.
Pour les fragiles, prenez votre masque et vos bouchons d'oreilles parce que ça va taper sec pour cette donc quatrième fête du feu et de la terre du côté de Nègrepelisse. Initié bah, notamment par vous, hein, Thierry Reynal, qui est coutelier à Nègrepelisse. Bah, je vais vous laisser le mot de la fin.
Et là, avec moi, je suis. Fait, voilà, quoi. Nous sommes quand même quatre dans l'aventure, quoi, avec trois autres collègues. Ouais, Jésus Granda, le président, avec Cyril Eguezias et sa compagne, qui sont eux aux commandes du secrétariat et de la finance, si on peut dire. Et puis voilà, quoi.
On a besoin.
Puis après, tous les bénévoles qui nous donnent un coup de main, les enfants, les copains, et puis voilà, quoi. Donc on est quand même une petite bande de joyeux lurons, quoi.
petite bande, je crois que ça fait du monde sur la place qui mange le sanglier à la broche le soir.
Le vendredi soir, oui. Le vendredi soir, enfin, c'est l'accueil de tous les gens qui viennent de loin, quoi. Et donc, voilà, quoi. Donc on fait un petit repas à la gauloise, un peu pour nous fournir, quoi. Et puis après, bon, le samedi soir, il y a le repas de tout le monde, quoi, qui se passe, à la salle Aimé Padier au village, avec une petite animation musicale, quoi, et voilà, quoi, donc le côté convivial, quoi. Et le dimanche soir, après manger le reste, hein. Ceux qui sont de loin, qui repartent après, quoi.
Et qui viendront l'année prochaine, encore une fois, doublant donc la taille des exposants. Là, c'est là.
Ouais, le problème, c'est que le château, on ne va pas pouvoir fondamentalement écarter les murs, pour les mélanges. Déjà, cette année, on est obligé de mettre des barnums un petit peu partout pour loger les gens, quoi. Ça va être compliqué après.
Fête du feu et de la terre à Nègrepelisse ce week-end. On vous retrouve là-bas, Thierry Reynal. Merci beaucoup.
Écoutez, on vous attend à tous, quoi. Merci.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
to treat me this away. Girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come.